présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
C'est le contraire. J'ai lui dit, mieux n'a rien à voir. L'on est n'importe où, une rose peut pousser dans le fumier. Jésus est né chez des artisans, etc. Ce qui compte, c'est que l'on est autre. Et c'est ce que l'on est en soi. François Liban. Et qu'est-ce qu'il y a en toi qui te fait penser que tu n'es pas comme les autres? J'ai lui dit une force qui me fait rejeter les autres, qui me fait voir autre comme l'or. Mais c'est malgré moi-même, je les refuse. Tu es et l'on ne peut pas refuser ce que l'on est et qu'on est mieux que les autres. Je lui dis, je sais, oui, et alors, tu es une personne unique, comme moi. Ton unité te met au-dessus des autres. Voilà. Seulement, pour cela, je dois faire ce que j'ai fait. Oui. Pour toi, il te sent rien. Et en plus, tu dois démontrer que tu es différent. Ta différence. Tu peux te permettre que l'on te marche sur les pieds. Et il continue à parler comme ça durant des heures. Pour François, c'est une nouveauté. Mais pour vous, si vous avez lu, écrit ou regardé la spirale de verre, la plante du diable, des discours comme cela, vous en avez eu des temps. Judith le voit souvent discuter avec ce Gilles. Elle lui dit à chaque fois de se méfier de lui. Il va te faire faire des bêtises. Il est très dangereux, ce jeune-là. Lui et les marches sont très dangereux. Ils font des choses pas respectables, peu respectables. Reste à l'écart. Il lui répond, ne fais pas de soucis. Il me dit ses idées qui sont bizarres, mais intéressantes. Il ne voit que très peu Carole. Il est vrai que Carole a quelques ennuis avec son mari et elle et Eric préparent quelque chose de pas très catholique comme l'on dit. Les jours passent. Dans une soirée, François veut venir à lui, une femme grande, mince, des cheveux blonds, mi-longs. Elle a dans les 40 ans, habillée d'une robe blonde rouge. Cette femme lui dit, ça fait un moment que je vous observe, jeune homme. Il demande pourquoi. Elle lui dit, pourquoi faut-il avoir un pourquoi à ça? Il se dit que ça doit être une toquée. Il y en a des tas dans les soirées, entre la femme à tête de cheval, le lapin, monsieur de Jean-Jus et Pierre-Max Roussillon, etc., etc. Elle reste encore près de lui et lui dit, « Je vous trouve très séduisant. » Il lui dit, « Merci. » Elle fait, « Si je n'étais pas mariée. » Il lui dit, « Heureusement qu'elle l'est. » Elle continue, vous pouvez me faire danser si vous le voulez. Il lui dit, ça vous fait plaisir, allons-y. Mais il la met danser. Elle se frotte à lui et lui demande, vous avez une fiancée? Il lui dit, j'ai mieux que ça, une maîtresse. Elle fait, oh, c'est plus compliqué. Mais si vous voulez que l'on fasse connaissance un peu mieux, je m'appelle Marthe Linel. Et vous? Il lui dit, François Ducos. Elle lui dit, oh, très joli nom. Il fait, peut-être mais d'une famille très commune. Elle dit, c'est impossible. Un si joli garçon ne peut faire partie d'une famille commune. Merci. Elle est de plus en plus éblouie par ce jeune homme et beau garçon. Elle va danser un peu et ne veut le quitter. Elle demande, nous allons quelque part si vous voulez. Lui demande, mais et votre mari? Elle fait, mon mari, mais il n'est pas ici ce soir, il est à Hong Kong pour affaire. Nous faisons de la matière plastique industrielle et médicale pour les prothèses. Il lui fait, ça m'a l'air très intéressant. Et lui fait, ça permet de vivre. Alors, nous allons quelque part.
Il se dit, elle semble avoir de l'argent, cette Tokay. Alors pourquoi pas?
Il lui dit, je veux bien. Tout à coup,
il voit devant eux une charmante jeune fille, grande, mince, des cheveux qui ont du blond, visage très fin, yeux bleus, petit nez. Délicat, elle porte une robe du soir bleu, roi, longue et juste, moulante. Elle doit avoir dans les 25 ans, elle dit.
Bonjour, Marc. Tu me présentes ce jeune homme?
Marc, furieuse, lui dit.
Oui, bien sûr, ma chérie.
Béatrice
Verlec,
ma belle-sœur.
Elle est mariée avec mon jeune frère.
Voilà.
François lui dit, enchanté.
Et lui fait, moi aussi, je vous ai vu danser avec Marc, et j'ai été éduit par votre façon de danser. Vous êtes tellement, tellement.
Marc lui dit,
monsieur, moi, allons.
Nous,
elles sont allées.
Béatrice lui dit, oh, comme c'est dommage. Vous auriez pu rester un peu plus longtemps, vous auriez pu faire connaissance.
François trouve la jeune fille mieux que cette marque, qui semble très possessive. Et des femmes possessives, il en a déjà une, ça suffit.
Béatrice lui demande, vous me faites danser?
Ainsi, nous n'avons pas le temps, ce jeune homme
va partir.
François furieux lui dit, mais j'ai bien le temps de faire une danse. Et puis, rester une heure de plus ou de moins, ça ne me gêne pas, je n'ai rien à faire.
Marthe est furieuse. Elle est vraiment prise par cet homme. Elle le veut à elle. Pourtant, elle le connaît à peine. François dit à Béatrice, venez, nous allons danser. Elle l'emmène danser. Elle se dit, payera cette garce. Pendant qu'elle danse, elle lui dit,
dès que je vous ai vu, je vous ai trouvé charmant.
Et lui dit,
pour moi, délicieux, si je te permets, si je me permets.
Je trouve regrettable que vous soyez mariés.
Elle lui dit, oh, je suis en instance de divorce. Mon mari et moi, nous ne parlons plus depuis des mois déjà.
Il est toujours occupé par ses affaires.
Il travaille dans l'entreprise de son beau-frère, mari de Marc.
Ils sont tous les deux associés, mais en réalité, c'est le beau-frère qui dirige tout.
Ils sont très autoritaires, tous les deux.
Il lui dit, je vois.
Elle lui fait,
elle a voulu s'emparer de vous.
Il lui fait,
oui, mais heureusement que vous étiez là et que vous m'avez sauvé.
Elle lui dit, vous voulez pour nous partir comme ça,
sans rien dire.
Il lui demande, et allez-vous.
Elle dit,
moi, pour pas être chez moi.
Il lui fait, alors,
il s'est dit, il sera libre de l'autre,
et que celle-là est mille fois mieux, peut-être moins riche, mais c'est à voir.
Alors il lui dit, je veux bien,
il fait, partons vite.
Et il se sauve en passant de l'autre côté,
où se trouve Marc, mais Marc les voit.
Elle va vers eux,
mais la foule la gêne. Elle a juste le temps de les voir sortir.
Lorsqu'elle sort elle-même, ils ne sont plus là. Elle cherche la voiture de sa belle-sœur. Elle ne les voit pas. Elle ne la voit pas. Elle a dit qu'elle a dû prendre François avec elle et qu'elle leur accompagne. Elle est furieuse. Elle ne sait ce qu'elle fait.
parce qu'elle s'imagine François avec cette pimbèche. Elle les imagine au lit. Furieuse, elle prend sa voiture en vitesse. Elle file, quitte Paris, pour aller où habite sa belle-sœur. Elle roule comme une folle. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire encore. Elle va là-bas pour empêcher sa belle-sœur de coucher avec François. Elle ne sait pas ce qu'elle va dire ou faire. Béatrice habite dans un village à 50 km de Versailles. Elle a une villa. Elle a beau rouler de plus en plus vite, elle n'arrive pas à voir la voiture de sa belle-sœur. Elle se dit qu'elle a dû prendre une autre route. Puis, tout d'un coup, lui vient une pensée. Et si ils avaient été chez lui, rentrer à Paris? Elle est déjà presque arrivée à Versailles. Elle se dit, mais s'ils sont à Paris, où sont-ils? Je ne connais pas son adresse à lui. Elle est furieuse. Arrêter sa voiture d'un coup et se dit, qu'est-ce que je fais? Il est à Paris ou quoi? Son mari est avec le mien. Elle est libre. Et pour recevoir qui elle veut chez elle. Mais lui aussi. Alors, c'est de continuer sa route. Elle arrive enfin vers la villa de sa belle-sœur. Ça se trouve dans une petite rue. C'est une petite villa toute blanche. En réalité, une vieille maison blanche toute mignonne. Je vois que la voiture est garée près de la villa. Elle se dit, ils sont là. Sort de voiture. Regarde la villa. Pas de lumière aux fenêtres. Mais elle se dit, ils doivent être couchés. Furieuse, elle appuie à l'interphone. Pas de réponse. Elle appuie encore une fois. Rien. Elle est furieuse. Oui. Elle sursaute. On a fait oui. Elle ne sait quoi répondre. Une voix dit, des gens qui doivent rigoler. Viens. Elle est furieuse. Appuie encore une fois. Deux fois, trois fois, quatre fois. Si vous continuez, j'appelle la police. Compris? Elle s'arrête d'un coup. Elle se dit qu'elle en serait bien capable, cette garce. Essoufflée, furieuse, malade, envie de pleurer, de mourir. Elle ne sait pas. Va sur la voiture et décide d'attendre leur sortie. Va dans sa voiture et se dit, elle me payera, cette garce. Pendant ce temps, Béatrice va rejoindre au salon François. Le salon est une grande pièce meublée du 19e, assez sombre. Les meubles sont très grands, en vieux bois. Il y a une cheminée de marbre avec un bon feu. François est assis dans un fauteuil près du feu. Elle est allée vers lui, s'assoit en face de lui dans un fauteuil. Lui demande, qui était-ce? Elle lui dit, rien. Mais, remarque, je ne serais pas surprise que ce soit ma belle-sœur.
Elle est bizarre.
Et est très jalouse. D'une jalousie maladive.
François lui demande. Tu crois qu'elle serait capable de venir jusqu'ici et de chercher à nous ennuyer?
Elle lui fait.
Oh, que oui. C'est une garce. Elle s'est mariée juste pour la fortune de son mari. Il travaille comme un forçat parce qu'elle demande de plus en plus. Et le pauvre est obligé c'est d'entraîner mon mari dans cette galère. C'est une vraie garce. Méfie-toi d'elle. Moi, je saurais débarrasser de mon mari et en même temps d'elle.
Ande, pourquoi est-ce que tu ne veux plus ton mari?
Elle lui dit,
parce que nous n'avons plus de rapport, plus rien à nous dire, ne plus que ses affaires. Moi, je ne compte plus pour lui. Je suis qu'un objet et rien d'autre. J'aurais aimé, c'est avoir un homme pour m'occuper de lui, le rendre heureux, lui rendre la vie douce et confortable.
Elle soupire et lui dit,
assez parlé de moi, et toi?
Et lui dit,
moi, rien. J'aime une vie de calme et que l'on s'occupe de moi, voilà.
Au moment, je vis seul et je n'ai pas de famille.
Elle lui fait,
un si joli petit garçon.
Il lui dit,
oui.
Et s'élève d'un bond,
va s'asseoir à terre, le dos à ses pieds, met sa tête sur ses jambes et lui dit,
caresse-moi les cheveux, j'adore ça.
C'est ce qu'elle fait.
Il lui dit,
j'ai toujours aimé que l'on me caresse.
Elle lui donne un baiser sur la tête.
Il lui dit, j'aurai toujours ton bébé, hein?
Les flammes éclairent en dansant leur visage et fait briller leurs yeux. Ils sont beaux comme ça. Ils restent un long moment comme ça, puis la tête reposant sur les jambes d'elle et elle caressant les cheveux. Tous deux en regardant les flammes qui les inoptisent et les détendent. Seul le bruit des flammes.
Que je te raccompagne.
Il donne un baiser sur la tête.
Il lui demande, je ne peux pas rester cette nuit.
Elle lui dit,
la nuit est déjà bien entamée. Et puis, je ne peux pas. Je ne suis pas encore divorcée. Et si quelqu'un passe la nuit chez moi, ça peut me nuire. Il lui dit bien. Puisqu'il le faut, on se reverra.
Elle lui fait,
bien sûr, et puis peut-être que dans quelque temps je serai libre, ça fasse vite quelques mois. Alors, avec toi, lève-toi. Il se lève, elle aussi, elle lui demande, tu veux boire une dernière coupe de champagne? Il lui dit, oui merci, et va le lui chercher.
Avec deux verres.
Il entend un « Tiens, merci. »
Elle lui dit
« À nous. »
Ils boivent.
et lui prend la coupe, va la déposer vers une table basse. Viens, on s'en va. Et ils sortent du salon. Et lui dit, et si elle est là? Et lui dit, elle n'osera rien faire. Viens. Ils sortent de la villa. Elle lui dit, regarde sa voiture au pied de l'arbre. Elle est à l'intérieur. Faisons comme si nous ne la voyons pas. Viens. Elle le mène à sa voiture. Ils entrent et la met en route. Et file vers Paris. Et lui dit, quel crampon. Elle lui fait, oui. Ils arrivent à Paris. Vous habitez où? Il lui dit, place de l'Étoile. L'hôtel de Paris, Pontoise. Elle le mène. Il lui dit, merci, m'embrasse sur la joue, à bientôt. Elle lui dit, oui. Il entre dans son hôtel. Mathilde se dit, je sais où il habite ce salaud. Elle va me le payer. Le lendemain matin, François est réveillé par la sonnerie du téléphone. C'est moi, Judith. Tu es réveillée? Il lui dit, tu m'as réveillée. Elle fait, je m'excuse, mais... mon chéri, je suis à mon bureau. Comment vas-tu? Il lui dit, ça va, et toi? Moi aussi, hier je t'ai vu avec cette femme, la Lunelle. Puis tu as disparu. T'es parti avec elle? Il lui dit, alors avec qui? Sa belle-sœur. Je connais pas. Mais l'autre, je ne peux rien faire. Je ne peux pas t'empêcher de la voir. Parce qu'elle le veut, et elle est, avec son mari, actionnaire chez nous. Mais je suis jalouse. Il lui dit, ne te fais pas de soucis. Cette fille avec qui je suis parti, c'est pour m'empêcher que l'autre m'embête. Elle était toujours près de moi, une vraie tordue. Elle lui demande, on se revoit ce soir? Oui, bien sûr. Elle lui fait, je t'embrasse, moi aussi. Et elle a raccroché. Il se dit, c'est épuisant. Oui, c'est épuisant. Il se lève à midi, se fait servir son petit déjeuner et s'apprête à sortir.
Le téléphone sonne. Il décroche.
Allô? C'est moi, Marthe. Tu vas bien?
Il dit furieux. Comment avez-vous eu mon numéro de téléphone?
Elle dit. Je sais où vous habitez. Vous êtes fâché?
Il dit. Non, c'est pas un secret.
Elle lui demande. On sort? Si tu veux, nous pouvons aller au restaurant déjeuner. Je suis en bas de l'hôtel, dans le hall.
Il se dit la garce. Elle a cherché jusqu'ici. Aucune fille n'a fait ça. Bien d'accord. Je veux bien déjeuner avec vous, mais je ne reste pas. Il sort de sa chambre. La retrouve dans le hall en tailleur blanc. Elle accourt, le prend dans ses bras et l'embrasse sur la joue. Il lui dit, tu n'as pas peur que l'on soit comme ça? Elle lui fait, aucune importance, nous allons déjeuner. Elle le mène déjeuner avec sa voiture à Versailles, dans un restaurant, salon de thé et hôtel. L'établissement se trouve dans une grande propriété. C'est une ancienne demeure du 19e. Décoration Louis XV, vieux Louis XV. Beige et doré. Serveur, 15-18 ans, habillé en habit noir. Musique. Les clients, ce sont surtout des hommes, des femmes d'un certain âge et qui ont les moyens. Lorsqu'ils arrivent, un jeune maître d'hôtel vient à eux. Il est grand et mince, blond. Vous désirez? Elle dit, une table pour deux personnes, s'il vous plaît. C'est réservé. Elle fait, oui, au nom de Madame Laurel. Il regarde sur son ordinateur. Elle dit, oui, madame, veuillez me suivre. Et il l'amène à une table pour deux couverts. Puis fait signe à un autre, au maître d'hôtel, pour présenter les cartes. Demi-heure plus tard, ils sont à table en train de manger des quenelles aux truffes et au champagne. Elle lui dit, ce lieu est très coté et connu, était mis à la mode par les Pontois. Il paraît que le mari y a amené son petit ami, très célèbre acteur de son temps, et elle l'a ramené aussi. Il paraît qu'ils sont montés dans une chambre. La chambre que les Pontois ont pris se loue à un prix exorbitant. Parce que tout le monde veut y aller. Parce qu'il paraît qu'elle a un fluide pour les amoureux. Ça leur donne beaucoup de vigueur. Je ne sais pas si c'est vrai. Qu'en pensez-vous? Il lui dit, je ne sais pas. Elle lui fait, serait peut-être intéressant de le savoir.
je me suis permis, c'est de louer cette chambre, la chambre de Félicien pour toi, pour tout l'après-midi. Après le repas, pourrions y faire une visite. Il se dit plutôt, faut que j'y passe. Et lui dit, si ça vous amuse, moi les musées, ça ne m'a jamais excité. Elle lui fait, et les accompagnatrices? Et lui dit, ça dépend. Si elle ressemble à Joconde, non. Elle lui fait, et moi, je ressemble à quoi? Il a envie de lui dire, pour lui faire mal, un Picasso. Il lui fait, à quelque chose dont j'aurais peint. Elle lui fait, mais vous êtes bon peintre. Il lui dit, en tout cas, j'ai du goût. Elle sourit pour ce compliment. Pour lui, ce n'est qu'un compliment de diplomatique. Il peut dire le contraire, il veut dire. Il peut dire le contraire de ce qu'elle croit, cette idiote. On peut avoir du goût et peindre des horreurs. Et comme elle est le tableau, il continue à manger. Elle est heureuse. Elle va la voir. Elle lui dit, vous n'étiez pas gentil hier au soir. Vous êtes parti comme ça, sans me dire au revoir. Il lui fait, je m'excuse des circonstances. Et puis, je ne tenais pas à vous gêner. Elle lui fait, vous êtes parti avec ma belle-sœur. Il dit, oui, il fallait bien l'accompagner. Il lui fait, vous les hommes, vous ne savez pas dire non. Il lui dit, je pourrais, après un bon repas, bien arrosé, m'éclipser. Elle lui dit, vous dormez, mais vous êtes tellement charmant. Et puis, vous ne pouvez pas refuser à une femme. Et puis, si cette femme, j'ai une montre en diamant et or de chez Cartier pour les hommes, de toute beauté. Je suis une artiste moi aussi, et je verrai très bien cette montre à votre joli petit poignet. Il lui sourit. Après le repas, elle dit au maître d'hôtel, j'ai commenté la chambre 604 pour l'après-midi. J'ai un besoin urgent. Il dit, bien madame, veuillez me suivre. Il l'amène à l'étage. Tout le monde les voit monter les escaliers et savent pourquoi. Il ouvre une porte, éclaire, et fait « Entrez, c'est la chambre de Monsieur Pontois. » Ils entrent. La pièce est grande, luxueuse, beige, meuble Louis XV. Il leur dit « Cette chambre est restée telle qu'elle. La salle de bain est là. La porte là. » Il la lui montre. Elle lui dit, cela vous convient? Elle fait, oui, merci. Il lui fait, bon, besoin pressant, messieurs, dames. Et il sort de la pièce. Les volets n'ont pas été ouverts. Les rideaux, les doubles rideaux, fermés aussi. Le maître d'hôtel a éclairé la lampe de chevet. Poisson se dit que d'habitude, son travail ne va pas si loin. Il séduit et rien de plus. Malgré tout, les gens pensent qu'ils ont fait parce qu'ils ont joui sans faire, juste en le voyant. Là, c'est autre chose. La vieille en veut. Elle s'approche de lui, le prend dans ses bras et lui dit « Je sais que tu as envie de moi, mais ne me prends pas comme une bête. » Il lui fait « Moi, j'aimerais tant que l'on m'aime comme un enfant. » Il pose sa tête sur sa poitrine et lui relève la tête en lui tirant les cheveux en arrière et lui embrasse les lèvres goulûment. Il étouffe et se laisse faire. Puis, d'un geste brusque, elle lui enlève la veste, lui défait sa cravate, lui arrache sa chemise, lui défait son pantalon. Et le lui descend. Elle se dégage essoufflée et enlève ses vêtements. Deux heures plus tard, ils sortent de la chambre. Lui épuisé, furieux, elle heureuse. Et épanouie. Elle le prend par le bras. Descendent, passant la manger. Les gens les regardent, se disent qu'ils doivent avoir fait et s'est payé ce jeu de gigolo. Il est furieux. Elle lui demande.
Tu veux un thé ?
Il lui dit, non, je veux rentrer. Elle lui fait,
comme tu voudras.
Et ils sortent de l'établissement. Arrivé à Paris, vers son hôtel, et lui dit, avant qu'il ne sorte de voiture,
tu auras ton cadeau dans une semaine. On se revoit.
Il dit,
Je suis très pris.
Elle fait, je comprends.
Et il la quitte, furieux.
Il rentre chez lui, épuisé et furieux. Le soir, il va chez Judith. Elle le trouve énervé.
Qu'est-ce que tu as ?
Dit, j'ai la Laurel qui m'ennuie.
Elle lui dit, ne te fais pas de soucis. On va la voir celle-là aussi.
Deux jours plus tard, dans l'après-midi, le téléphone sonne dans sa chambre.
Allô?
C'est moi, Marthe. Ça va?
Je suis fatigué.
Elle lui demande, on peut se voir, si tu veux?
Il lui dit, non, je suis fatigué. Je reste dans ma chambre.
Elle lui fait, et ton cadeau?
Une autre fois. Et il raccroche. Elle est furieuse.
Dans l'après-midi, le téléphone sonne encore une fois.
Il décroche. Allô, oui?
C'est moi, Béatrice.
Il est surpris.
Bonjour Béatrice. Elle lui fait, on peut se voir?
Il lui dit, oui, si vous voulez. Il a accepté parce qu'il veut se libérer de cette folle de Marthe et veut se venger d'elle.
Et il dit, si vous voulez, nous pourrions sortir un peu. J'ai un magasin à faire. Boulevard Saint-Honoré. Je vous donne rendez-vous à bord de votre hôtel.
Il lui dit, bien, d'accord.
Dans une demi-heure, bien.
Demi-heure plus tard, il la retrouve dans le hall de l'hôtel, habillée comme une petite fille, bien sage, jupe plissée écossaise à dominance rouge. Chemisier blanc, blouson de cuir marron, lui dit, vous êtes délicieuse. Vous aussi, vous direz que vous êtes mon petit frère. Elle lui dit, mais je veux être votre petit frère. Et sourit, lui dit, venez, la petite sœur a beaucoup de choses à acheter. J'ai pris un taxi pour aller boulevard Saint-Honoré. Elle le prend par le bras, regarde les vitrines, elle lui demande des conseils pour les robes, etc.
En fin d'après-midi, plein de paquets, ils sont allés dans le salon de thé prendre du thé et des gâteaux. Ils ont passé une très bonne journée ensemble.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.